Chapitre 12. Soupçon. L'art est une drogue. Tous ceux qui apprennent cette magie en sont prévenus dès le début de leurs études. Ce pouvoir exerce une fascination qui pousse à l'employer toujours davantage, et qui croît en proportion du savoir-faire et de la puissance de l'usager. Cette attirance éclipse tout autre sujet d'intérêt ou de relation. Pourtant, elle est difficile à décrire à qui n'a pas fait personnellement l'expérience de l'art. Cela s'apparente à voir l'essor d'un vol de faisan par un petit matin frisqué d'automne, à prendre parfaitement le vent dans les voiles d'un navire, à sentir la première bouchée d'un ragoût chaud et savoureux à la fin d'une journée froide sans rien à manger. Mais ce sont là des sensations qui ne durent qu'un instant. L'art, lui, les prolonge aussi longtemps que dure l'énergie de l'usager. Il était très tard quand nos compagnons regagnèrent notre camp. Damon, mon maître, était saoul et s'appuyait avec affection sur Chris, lui-même ivre, de méchante humeur et environné d'une odeur de fumée. Ils tirèrent à geste embarrassé leur couverture de la carriole et s'y enroulèrent. Ni l'un ni l'autre ne proposa de me relever de ma garde. Je soupirai. Je n'avais guère de chance de dormir d'ici la nuit suivante. L'aube se leva tôt, comme toujours, et la maîtresse de caravane exigea que nous nous levions et nous préparions à reprendre la route. Elle se montra intraitable, et s'était sans doute avisée. Si elle avait laissé chacun libre de dormir tout son sou, les Lefteaux seraient retournés au village, et elle aurait dû passer la journée à réunir tout son monde. Cependant, l'humeur générale n'était pas au beau fixe. Seuls les conducteurs d'attelage et Astérie, la ménestrelle, paraissaient avoir su s'arrêter de boire à temps. Et nous préparâmes un gruau commun, que nous partageâmes tandis que les autres comparaient leurs migraines respectives et autres sujets de doléances. J'ai remarqué que boire à plusieurs, surtout de façon excessive, crée un lien entre les gens. C'est ainsi que, quand mon maître estima avoir trop mal à la tête pour conduire la carriole, il confia cette tâche à Chris et s'endormit malgré les cahots, tandis que Chris somnolait sur les rênes et que la ponette suivait les autres chariots. Ils avaient attaché le sonnaillet à l'arrière de la voiture et le troupeau marchait à sa suite, plus ou moins. J'étais tout de même obligé de trotter derrière au milieu de la poussière pour maintenir les bêtes aussi groupées que possible. Le ciel était pur, mais l'air demeurait froid, agité de rafales de vent qui faisaient tournoyer les nuages de poussière que nous soulevions. J'avais passé une nuit blanche et la migraine me martela bientôt les tempes. Madge ordonna une brève halte à midi. La plupart des membres de la caravane étaient alors assez remis pour avoir envie de manger. Je puisais de l'eau dans un des barils du chariot de Madge, bu, puis mouillais mon mouchoir de tête pour me débarbouiller succinctement. J'essayais d'enlever des saletés qui me piquaient les yeux quand Astérie apparut près de moi. Je m'écartais, pensant qu'elle désirait de l'eau, mais elle me chuchota. « À votre place, je garderai mon mouchoir. » J'essorai le morceau de tissu et le renouai sur ma tête. Oh, je le garde, mais ça ne m'empêche pas d'avoir de la poussière dans les yeux. Astérie me regarda en face. Ce n'est pas de vos yeux que vous devriez vous soucier, mais de cette mèche blanche. Vous devriez la teindre en noir avec de la graisse et de la cendre ce soir, si vous avez un moment à vous. On la remarquera peut-être moins. Je m'efforçais de prendre une expression purement interrogatrice. Elle sourit d'un air malicieux. Les gardes de Royal sont passés dans le village quelques jours avant nous. Ils ont dit aux habitants que le roi soupçonnait le grêlé de traverser Bauges, et vous avec lui. Elle se tut et attendit une réaction de ma part. Comme je continuais à la regarder sans répondre, son sourire s'élargit. Mais il s'agit peut-être d'un autre individu qui a lui aussi le nez cassé, une balafre sur le visage, une mèche blanche dans les cheveux et, elle désigna mon bras, une entaille récente, faite par une épée à l'avant-bras. Je retrouvais l'usage de la parole et une partie de mes esprits. Je remontais ma manche. Une entaille faite par une épée? Je me suis égratigné sur un clou, en sortant à la porte d'une taverne et sans le faire exprès. Voyez-vous-même, d'ailleurs, c'est presque guéri. Elle se pencha obligeamment sur mon bras. Ah, je vois, en effet. Eh bien, je me suis trompé. Néanmoins, et elle me regarda encore une fois dans les yeux. Je garderai quand même mon mouchoir sur la tête si j'étais vous, pour éviter, à d'autres, de commettre la même erreur. » Elle se tut et inclina la tête vers moi. « Je suis ménestrel. Je préfère assister à l'histoire que la faire ou la changer. Mais ça m'étonnerait que tout le monde pense comme moi dans la caravane. » Je ne répondis pas, et elle s'éloigna en sifflotant. Je bus à nouveau en prenant garde de ne pas exagérer, puis je retournai m'occuper de mes moutons. Chris, un peu remis, put m'aider plus ou moins le reste de l'après-midi. La journée me parut néanmoins encore plus longue et plus fatigante que d'habitude, et cela n'était pas dû à la complexité du travail à effectuer. Non, le problème, après réflexion, tenait à ce que je m'étais remis à penser. Je commençais à désespérer de jamais revoir Molly et notre enfant. J'avais baissé ma garde. Je ne m'étais pas assez inquiété de mon propre sort, et si les gardes de Royal réussissaient à mettre la main sur moi, ils me tueraient sur le champ. Alors, je ne reverrai jamais ni Molly, ni notre fille. Dans un sens, c'était pire que la menace qui pesait sur ma vie. Au repas du soir, je m'installai plus loin du feu que d'ordinaire, bien que cela m'obligeât à m'emmitoufler dans mon manteau pour me protéger du froid, et je gardai le silence, ce qui n'avait rien d'inhabituel pour mes compagnons qui bavardaient, eux, et beaucoup plus qu'à l'accoutumée, de la soirée au village. J'appris ainsi que la bière était bonne, le vin mauvais, tandis que le ménestrel local s'était fait tirer l'oreille pour permettre à Astérie de jouer devant son public. Les membres de la caravane semblaient regarder comme une victoire personnelle que les chansons d'Astérie eussent été bien reçues par les villageois. « Tu as bien chanté, même si tu ne connais que des ballades de cerf !» concéda Chris, magnanime. Astérie accepta ce compliment mitigé d'un hochement de tête. Comme toujours après le repas, elle déballa sa harpe. Une fois n'est pas coutume, Maître Dell avait accordé une soirée libre à sa troupe, ce dont je déduisis qu'il était content de ses marionnettistes, sauf de Tassin. Celle-ci, dédaignant de m'adresser le moindre coup d'œil, était installée près d'un des conducteurs d'attelage et souriait à tous ses propos. J'observais que sa blessure n'était plus guère qu'une égratignure auréolée d'une légère ecchymose. La cicatrisation s'annonçait bien. Chris quitta l'assemblée pour aller monter la garde auprès de notre troupeau. Je m'étendis sur mon manteau, au-delà du cercle de lumière que projetait le feu, pensant sombrer aussitôt dans le sommeil, tandis que les autres ne tarderaient pas à gagner leur couche, eux aussi. Je me laissai bercer par le murmure de leur conversation et les notes légères qu'Astérie tirait distraitement de son instrument. Peu à peu, l'effleurement des cordes se mua en pincement rythmique, et elle se mit à chanter. Je flottais aux frontières du sommeil quand les mots « la tour de l'île de l'Andouillé » me réveillèrent brutalement. J'ouvris les yeux en comprenant que sa chanson parlait de la bataille qui s'y était déroulée l'été précédent, premier engagement du Rurisque avec les pirates rouges. J'en conservais à la fois trop et peu de souvenirs. Comme Vérité me l'avait fait remarquer bien des fois, malgré tout l'entraînement aux armes que j'avais suivi auprès de Hod, j'avais toujours tendance à revenir à un style de combat digne d'une taverne. J'avais donc emporté une hache et je m'en étais servi avec une sauvagerie dont je ne me serais jamais cru capable. On a dit par la suite que j'avais abattu le chef du groupe de pirates acculés. Je n'ai jamais su si c'était vrai ou non. Ça l'était dans la chanson d'Astérie en tout cas. Je crus que mon cœur allait cesser de battre quand elle célébra le fils de chevalerie aux yeux de feu, héritier du sang, sinon du nom de son père. La chanson se poursuivit par une dizaine d'embellissements invraisemblables sur des coups que j'aurais portés et des guerriers que j'aurais tués. J'éprouvais un étrange sentiment d'humiliation à entendre mes actes d'alors décrits comme pleins de noblesse et désormais quasi légendaires. Bien des combattants rêvent de voir leurs hauts faits chantés dans des ballades, mais pour ma part, je trouvais l'expérience déplaisante. Je ne me rappelle pas que le soleil eût fait jaillir des flammes du fer de ma hache, ni que je me fusse battu avec une bravoure digne du cerf de mon blason. En revanche, je me souviens de l'odeur tenace du sang et des entrailles que j'avais piétinées. Celle d'un homme qui se tordait encore à terre en gémissant. Ce soir-là, toute la bière de Castelcerf n'avait pas suffi à m'apporter la moindre paix de l'esprit. Quand la chanson s'acheva enfin, un des conducteurs d'attelage eut un ricanement méprisant, Alors, c'est celle-là que tu n'as pas osé chanter hier soir à la taverne, hein, Astéri ?
Avec un petit rire désapprobateur, la ménestrelle répondit. À mon avis, elle n'aurait pas plu. Les balades sur le bâtard de chevalerie ne doivent pas être assez populaires par ici pour me rapporter un sou.
Curieuse chanson tout de même, observa-t-elle. D'un côté, le roi promet de l'or pour sa tête, et les gardes vont disant « Attention, le bâtard a le vif, et il s'en est servi pour tromper la mort. » Et de l'autre, à vous écouter, c'est une espèce de héros.
C'est une chanson servienne, vous savez. Et on aimait bien le bâtard en serre, à une époque, répondit Astéri.
Mais plus maintenant, je parie. Ou plutôt si, n'importe qui l'aimerait bien, à condition de pouvoir le livrer aux soldats du roi et toucher les 100 pièces d'or.
Fit un des conducteurs d'attelage. Sûrement, acquiesça Astéri paisiblement. Quoi qu'il reste des gens en serre qui vous diront qu'on n'a pas raconté toute la vérité sur lui, et que le bâtard n'était pas aussi noir qu'on le dépeint aujourd'hui.
Je ne comprends toujours pas, fit Madge. Je croyais qu'on l'avait exécuté pour avoir assassiné le roi subtil à l'aile du vif.
C'est ce que soutiennent d'aucuns, dit Astéri. Mais la vérité, c'est qu'il est mort dans sa cellule avant qu'on puisse l'exécuter et qu'on l'a enterré au lieu de le brûler. On raconte aussi, la voix d'Astéri se réduisit à un quasi-murmure, que, le printemps venu, pas le moindre brin d'herbe n'a poussé sur sa tombe. Apprenant cela, une vieille sorcière comprit que la magie du vif dormait encore dans ses ossements, et que pourrait se l'approprier celui qui aurait le courage de lui arracher une dent. Elle s'y rendit donc, par une nuit de pleine lune, avec un serviteur armé d'une pelle à qui elle ordonna de creuser à l'emplacement de la tombe. Mais il n'avait pas retourné une pelletée de terre qu'il découvrit des éclats de bois provenant du cercueil du bâtard. Astéri fit une pause théâtrale. On n'entendait pas le moindre bruit, en dehors du crépitement du feu. Le cercueil était vide, naturellement, et ceux qui l'ont vu ont dit qu'on l'avait défoncé de l'intérieur, pas de l'extérieur. Un homme m'a même confié qu'on avait remarqué des poils gris de loup accrochés aux morceaux de bois.
Il y eut un nouveau silence, puis...
« C'est vrai ?»
demanda Madge. Astéri fit doucement courir ses doigts sur les cordes de sa harpe. C'est ce qu'on m'a raconté en serre. Mais j'ai aussi entendu Dame Patience, celle qui l'a inhumée, affirmer que c'était des bêtises, que le corps était froid et raide quand elle l'a lavé avant de l'envelopper dans un linceul. Quant au grêlé, que redoute tant le roi royal, elle a déclaré que ce n'était rien d'autre qu'un ancien conseiller du roi subtil. Un vieux reclus au visage marqué par la petite vérole qui est sorti de sa retraite pour annoncer partout sa conviction que vérité est toujours vivant et rendre courage à ceux qui doivent continuer à se battre contre les pirates rouges. Voilà. À vous de choisir ce que vous préférez croire.
Mélodie, une des marionnettistes, feignit un frisson d'angoisse.
Oh, tiens, chante-nous donc quelque chose de gai avant que nous allions dormir. Je n'ai plus envie d'histoire de fantômes ce soir.
Sans se faire prier, Astéri se lança dans une balade d'amour au refrain entraînant, que Madge et Mélodie reprirent en cœur. Pour ma part, allongé dans le noir, je ruminais ce que je venais d'entendre, bien conscient, sans m'en sentir tranquillisé pour autant, qu'Astéri avait mis le sujet sur le tapis à mon intention. Pensait-elle me rendre service, ou bien cherchait-elle simplement à savoir si l'un des membres de notre caravane avait des soupçons sur moi? 100 pièces d'or pour ma tête. Cela aurait suffi à exciter la convoitise d'un duc. Alors, une ménestrelle itinérante. Malgré ma fatigue, je mis longtemps à m'endormir ce soir-là. Le trajet du lendemain fut presque rassurant par sa monotonie. Je marchais derrière mes moutons en m'efforçant d'éviter de cogiter, mais cela m'était moins facile qu'auparavant. Chaque fois que j'arrivais à chasser mes inquiétudes, il me semblait entendre le « rejoins-moi » de vérité résonner dans ma tête. Quand nous montâmes le camp le soir venu, ce fut dans une gigantesque doline dont le fond abritait un trou d'eau. Après le repas, les conversations autour du feu furent émaillées de longs silences, car chacun, je pense, était las de ce voyage qui n'en finissait pas, et avait hâte d'apercevoir les rives du lac bleu. J'aurais aimé aller me coucher, mais j'étais du premier tour de garde.
Je montai légèrement le long du versant, afin de pouvoir surveiller d'un coup d'œil mes tas de laine ambulant en contrebas. La caravane tout entière tenait dans la vaste cuvette, et le petit feu près de l'eau semblait une étoile au fond d'un puits. Si le vent soufflait, nous ne le sentions pas, et dans cet air immobile, j'avais presque une impression de paix. Tassin se croyait sans doute discrète. Je l'observais qui se dirigeait vers moi, sa capuche rabattue sur le visage. Elle effectua un large cercle, comme pour me contourner. Cependant, je la suivais, non pas des yeux, mais à l'ouïe, et je l'entendis monter au-dessus de moi, puis redescendre vers moi dans mon dos. Je perçus même son parfum dans l'air calme et ressentis une bouffée involontaire de désir. Aurais-je la force de la repousser une seconde fois? Mon corps, en tout cas, n'en avait nulle envie, même si je devais ce faisant commettre une erreur. Quand je jugeais qu'elle ne se trouvait plus qu'à une dizaine de pas, je me tournai vers elle. Elle tressaillit de surprise. « Tassin, » fis-je en guise de salutation, avant de reporter mon regard sur mes moutons. Au bout d'un moment, elle vint se placer non loin de moi. Je levai les yeux vers elle sans mot dire. Elle rabattit sa capuche en arrière. Ses traits et toute son attitude exprimaient le défi. « C'est toi, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, le souffle court. Je perçus une légère trace de peur dans sa voix. Je ne m'attendais pas à cette question, et je n'eus pas à feindre l'étonnement. « C'est moi, quoi ? Si c'est de Tom le berger que tu parles, oui, c'est bien moi. Non, c'est toi le bâtard au vif que les soldats du roi recherchent. Après l'histoire qu'a raconté Astérie hier au soir, Drou, le conducteur, m'a dit ce qu'ils ont annoncé au village. Drou t'a dit que j'étais le bâtard au vif ? Je parlais avec circonspection, comme si ses propos hachés me plongeaient dans la perplexité. Une peur atrocement glacée sourdait en moi. « Non !» Sa peur se mêlait à présent de colère. Il m'a répété la description qu'ont donné les gardes royaux. Le nez cassé, une cicatrice sur la joue et une mèche blanche dans les cheveux. « Et tes cheveux, je les ai vus l'autre soir. Tu as une mèche blanche. » « N'importe qui peut avoir une mèche blanche. Il suffit d'avoir reçu un coup sur la tête. C'est une vieille blessure. » Je penchai la tête de côté pour l'examiner. On dirait que ta coupure guérit bien. C'est toi, oui ou non ? Elle semblait furieuse que j'ai voulu changer de conversation. Bien sûr que non. Voyons. Il a bien une blessure au bras, faite par une épée, d'accord ? Eh bien, regarde. Et je lui présentais mon bras droit dénudé. Je m'étais entaillé le bras gauche, et elle devait savoir, du moins c'est là-dessus que je misais, que c'est au bras qui tient l'épée qu'on a le plus de chances de se faire toucher en défense. Elle y accorda à peine un coup d'œil. « Tu as de l'argent ? » demanda-t-elle à brûle-pourpoint. « Si j'en avais, crois-tu que je serais resté au camp alors que tout le monde allait au village ? D'ailleurs, qu'est-ce que ça peut te faire ? À moi, rien. Mais à toi, beaucoup. Tu pourrais t'en servir pour acheter mon silence. Sinon, je pourrais bien confier mes soupçons à Madge ou au conducteur. » Et elle releva le menton d'un air de défi. Dans ce cas, ils pourront examiner mon bras aussi facilement que toi, répondis-je d'un ton las, avant de me retourner vers mes moutons. Tu t'es monté la tête sur les histoires de fantômes d'Astérie. Et maintenant, tu fais la bécasse. Retourne donc plutôt te coucher, ajoutai-je d'un ton le plus dédaigneux possible. Tu as une estafilade sur l'autre bras, je l'ai vu. Il y en a qui pourraient prendre ça pour un coup d'épée. Sans doute les mêmes qui te prendraient pour quelqu'un d'intelligent. Rétorquai-je, railleur. Ne te moque pas de moi ! Dit-elle d'une voix que la fureur rendait atone. Je t'interdis de te moquer de moi ! Alors cesse de raconter des idioties. Et puis qu'est-ce qui te prend ? Tu cherches à te venger ? Tu es en colère parce que je n'ai pas voulu coucher avec toi ? Je te l'ai dit, ça n'a rien à voir avec toi. Tu es jolie. Et il doit être très agréable de te caresser. Mais pas pour moi. Elle cracha par terre. Parce que tu crois que je t'aurais laissé faire ? Je m'amusais, berger, c'est tout. Elle émit un bruit ironique du fond de la gorge. Ces hommes ! Non mais, tu t'es regardé ?
Tu t'imagines vraiment qu'on puisse avoir envie de toi? Tu pues le mouton. Tu es maigre comme un clou. Et à voir ta tête, on a l'impression que tu n'as pas gagné un seul combat de toute ta vie. »
Elle tourna les talons, puis parut se rappeler soudain le but de sa visite.
« Je ne dirai rien à personne, pour l'instant. Mais à Lac Bleu, ton maître te donnera ta paix. Veille bien à me la porter, ou je lancerai toute la ville à tes trousses. »
Je poussai un soupir. « De toute manière, si ça t'amuse, tu le feras. Vas-y, brasse autant d'air que tu veux. Quand on s'apercevra qu'il n'en sort rien, tu seras la risée générale, et ça fournira un motif à Adèle pour te fouetter encore une fois. » Elle fit demi-tour et descendit à grands pas vers le fond de la cuvette. Elle trébucha sur la pente maigrement éclairée par la lune et faillit tomber, mais elle reprit son équilibre et me jeta un coup d'œil furieux, comme si elle me mettait au défi de m'esclaffer. Je n'en avais nulle envie. J'avais eu beau la narguer, j'avais un nœud au creux de l'estomac. 100 pièces d'or. Une fois la nouvelle connue, la somme était suffisante pour déclencher une émeute. Après ma mort, mes assassins estimeraient sans doute s'être trompés de victime. Étais-je capable de franchir seul la plaine de Bauges? Je pourrais revenir au camp juste après que Chris m'aurait relevé, prendre discrètement mes affaires dans la carriole et m'esquiver dans le noir. Nous ne devions plus être très loin de Lac Bleu. Tout en réfléchissant ainsi, je surveillais une nouvelle silhouette qui venait de quitter le camp et se dirigeait vers moi. Astérie marchait sans bruit, mais sans chercher non plus à se cacher. Elle me salua de la main avant de s'asseoir auprès de moi. « J'espère que vous ne lui avez pas donné d'argent, » me dit-elle avec affabilité. « répondis-je, en lui laissant le libre choix de l'interprétation. « Parce que vous êtes au moins le troisième homme qui l'a soi-disant mise enceinte depuis le début du voyage. C'est votre maître qui a eu l'honneur d'être le premier accusé, et le fils de Madge a été le second, enfin je crois. J'ignore combien de pères elle a désigné pour ce prétendu enfant. » Comme je n'ai pas couché avec elle, elle aurait du mal à me l'imputer, fis-je sur la défensive.
Ah bon? Alors vous êtes sans doute le seul homme de la caravane dans ce cas.
Je restai un instant interloqué, puis je réfléchis et enfin me demandai si un temps viendrait où je cesserais de me surprendre par ma propre naïveté. Ainsi, vous pensez qu'elle attend un enfant et qu'elle cherche un homme pour acheter ses années d'apprentissage?
Astérie eut un geste méprisant. Ça m'étonnerait qu'elle soit enceinte.
Elle ne demande pas le mariage, mais seulement de l'argent pour acheter des herbes abortives. Je crains que le fils de Madge ne lui en ait remis.
Non, j'en suis sûr. C'est de l'argent qu'elle veut, pas un mari. Alors elle cherche toutes les occasions de se faire culbuter, et un homme à qui elle puisse ensuite soutirer quelques espèces sonnantes et trébuchantes. Elle se déplaça de côté et jeta au loin un caillou qui la gênait.
« Eh bien, si vous ne l'avez pas engrossé, que lui avez-vous fait ?»«
Je vous l'ai dit, rien. »«
Ah, ça explique tout le mal qu'elle raconte sur vous. Mais comme ça ne date que d'hier, ou à peu près, j'ai supposé que vous ne lui aviez rien fait le soir de notre sortie au village. » »«
Astérie, » fis-je d'un ton menaçant, et elle leva la main dans un geste apaisant.
« Je ne dirai plus un mot. » Sur ce que vous ne lui avez pas fait. Plus un seul, c'est promis. D'ailleurs, ce n'est pas de ça que je venais vous parler. »
Elle se tut, puis voyant que je ne mordais pas à l'hameçon, elle demanda.
« Quels sont vos projets une fois que nous serons à Lac Bleu ?»
Je lui jetai un coup d'œil. « J'ai l'intention de toucher ma paix, de boire une bière, de prendre un repas digne de ce nom, puis un bain chaud, et enfin de dormir dans un lit propre, au moins une nuit. « Pourquoi? Quels sont vos projets à vous ?»«
J'envisageais de poursuivre jusqu'aux montagnes. »
Elle me regarda de biais. « Pour y chercher votre épopée ?»
Je m'efforçais de conserver un ton détaché.
« Les épopées naissent plus souvent des hommes que des lieux. »
Je songeais que vous comptiez peut-être vous rendre aussi dans les montagnes. Nous aurions pu voyager de conserve. »
Vous vous accrochez toujours à cette idée idiote que je suis le bâtard, dis-je sans embâge.
Elle me fit un sourire complice. Le bâtard au vif, oui.
Vous vous trompez.
affirmai-je d'un ton catégorique. « Et même si vous aviez raison, pourquoi le suivre jusque dans les montagnes ?»« À votre place, je sauterais sur l'occasion d'un bon profit en le livrant tout de suite aux gardes royaux. Avec 100 pièces d'or en poche, on n'a plus besoin d'écrire des chansons. »
Astérie eut une petite exclamation méprisante.
« Ah ! Vous êtes sûrement plus familier de la garde du roi que moi, mais même moi, je la connais suffisamment pour savoir que, si une ménestrelle cherchait à empocher la récompense, on retrouverait sans doute son corps flottant sur le fleuve quelques jours plus tard, tandis que certains gardes deviendraient subitement très riches. Non, je vous le répète, je ne cherche pas d'argent, bâtard. Je cherche une chanson.
Ne m'appelez pas ainsi, dis-je d'un ton tranchant.
Elle haussa les épaules et se détourna. Au bout d'un moment, elle tressaillit, comme si je lui avais enfoncé mon doigt dans les côtes, et me regarda avec un sourire qui allait s'élargissant.
Ça y est, je crois que j'ai compris. C'est ça le moyen de pression qu'Atassin sur vous. Elle vous demande de l'argent pour se taire.
Je ne répondis pas.
Vous avez été avisé de l'envoyer sur les roses. Si vous cédez tant soit peu, elle pensera qu'elle a vu juste. Si elle était réellement convaincue que vous êtes le bâtard, elle aurait gardé le secret pour le livrer aux gardes royaux, parce qu'elle n'a aucune expérience d'eux, et qu'elle s'imaginerait pouvoir conserver l'or.
Astérie se leva et s'étira posément.
« Bon, eh bien, je retourne dormir tant que j'en ai le temps. Mais réfléchissez à ma proposition. Ça m'étonnerait que vous en trouviez une meilleure. »
D'un mouvement théâtral, elle fit tournoyer son manteau qui vint se placer sur ses épaules, puis elle s'inclina devant moi comme si j'étais le roi en personne. Je la regardai redescendre vers le camp, le pied aussi sûr qu'une chèvre, malgré la maigre lumière lunaire. Et un instant, elle m'évoqua Molly. J'aurais pu prendre la poudre d'escampette et rallier Lac Bleu tout seul, mais alors ce serait pour Tassin et Astérie la preuve que leur supposition était exacte. La ménestrelle serait capable d'essayer de me suivre, et Tassin chercherait un moyen de toucher la récompense, tout résultat dont je ne voulais pas. Mieux valait m'accrocher à mon personnage de Tom le berger. Je levai les yeux vers le ciel nocturne qui étendait au-dessus de moi sa voûte limpide et glacée. Depuis quelques jours, au plus noir de la nuit, il commençait à faire un froid mordant. Le temps d'arriver aux montagnes, l'hiver serait bien plus qu'une menace. Si seulement je n'avais pas perdu les premiers mois d'été à faire le loup, je m'y trouverais déjà. Mais c'était là encore une réflexion vaine. Ce soir, les étoiles semblaient si proches et brillantes que le monde en paraissait rapetisser, et j'eus soudain l'impression que si je m'ouvrais et tendais mon art vers vérité, je le découvrirais là, juste au bout de mes doigts. Un sentiment de solitude jaillit alors en moi avec une telle violence que je crus éclater. Molly et Burick étaient tout proches, il me suffisait de fermer les yeux, et je pouvais être auprès d'eux, échanger la soif de savoir contre la douleur d'être incapable de toucher. Mes murailles d'art, auxquelles je me raccrochais si fermement depuis que j'avais quitté Gué de Négoce, me semblaient à présent suffocantes plutôt que protectrices. Je posais le front sur mes genoux relevés, les bras autour des jambes, et me recroquevillais contre le néant glacé de la nuit. Au bout de quelque temps, ma faim dévorante s'apaisa. Je relevai le visage et regardai les moutons paisibles, la carriole, les chariots, le camp où rien ne bougeait. Un coup d'œil à la lune m'apprit que mon tour de veille était fini depuis longtemps. Chris ne faisait jamais beaucoup d'efforts quand il s'agissait de se réveiller pour prendre ses gardes. Je me redressai, m'étirai, puis descendis le tirer de ses couvertures douillettes. Les deux jours suivants se passèrent sans incident, en dehors du fait que le temps se refroidit et se mit au vent. Le troisième soir, alors que nous venions de nous installer pour la nuit et que j'entamais mon premier tour de garde, j'aperçus un nuage de poussière à l'horizon. Sur le moment, je n'y attachais guère d'importance. Nous suivions une piste caravanière fréquentée et avions fait halte à un point d'eau, auprès duquel bivouaquait déjà une famille de rémouleurs. Aussi supposais-je que les nouveaux arrivants cherchaient eux aussi une source où s'arrêter. Sans bouger, je regardais donc le nuage s'approcher dans le soir qui s'assombrissait. Peu à peu, des silhouettes à cheval émergèrent de la poussière, en formation ordonnée. Plus elles grandissaient, plus ma conviction s'ancrait. C'étaient des gardes royaux. La lumière était trop faible pour me permettre de distinguer l'or et le brun des couleurs de royal, mais c'était inutile. Par un effort surhumain, je me retins de prendre mes jambes à mon cou. La froide logique me disait que s'ils étaient à ma recherche, il ne leur faudrait que quelques minutes pour me rattraper à cheval. Immense, la plaine n'offrait aucune cachette proche. Et s'ils n'en avaient pas après moi, ma fuite ne ferait qu'attirer leur attention, tout en confortant Tassin et Astéri dans leurs soupçons. Je serrai donc les dents et restai où j'étais, mon bâton entre les genoux, à surveiller les moutons. Les cavaliers passèrent devant moi et se rendirent tout droit au bord de l'eau. Ils étaient six, dont des femmes. Je reconnus un des chevaux, un poulain bai doré, auquel Burig prédisait un bel avenir de coursier, et sa vue me rappela cruellement la façon dont Royal avait dépouillé Castelcerf de tout ce qui avait de la valeur, avant de laisser la forteresse se défendre seule. Une petite étincelle de colère jaillit en moi, qui curieusement m'aida à prendre patience. Le temps s'écoula. J'avais fini par juger qu'il ne faisait que passer, comme nous, et ne s'était arrêté que pour prendre de l'eau et se reposer, quand Chris arriva de sa démarche lourde.
« On te demande au camp !»
annonça-t-il, de très mauvaise humeur. Il aimait se coucher dès qu'il avait terminé de manger. Comme il s'asseyait à ma place, je lui demandais ce qui chamboulait nos tours de veille.
« Les gardes royaux !»
répondit-il d'un ton irrité, le souffle court.
« Ils bousculent tout le monde, et ils exigent de voir tous ceux qui accompagnent la caravane. En plus, ils ont fouillé les chariots. »«
Que cherche-t-il » manquis-je d'un air dégagé.
« Je n'en sais fichtre rien. Et je n'allais pas risquer un coup de poing dans le nez pour le savoir. Mais si ça t'intéresse, vas-y. Ne te gêne pas pour moi. »
Je pris la direction du camp, le bâton à la main, l'épée toujours au côté. J'avais songé à la dissimuler, puis je m'étais ravisé. Porter une épée n'était pas interdit, et si je devais la dégainer, je n'avais pas envie de devoir batailler avec mon pantalon. Le bivouac évoquait un nid d'abeilles renversé. Madge et ses hommes avaient l'air à la fois inquiets et furieux. Les soldats harcelaient le rémouleur, et d'un coup de pied, une des gardes fit s'écrouler un empilement de récipients en étain, dans un vacarme épouvantable. Puis elle cria qu'elle fouillait ce qu'elle voulait, comme elle voulait. Le rémouleur se tenait près de son chariot, les bras croisés. À en juger par son aspect, il avait été frappé et jeté à terre. Deux gardes tenaient sa femme et ses enfants en respect, dos à l'arrière du chariot. Du sang coulait du nez de la femme, mais elle paraissait encore prête à se battre. Je pénétrai dans le camp aussi discrètement qu'une volute de fumée et pris place aux côtés de Damon, l'air de n'avoir jamais été ailleurs. Nous n'échangeâmes pas une parole. Le chef des gardes se désintéressa du rémouleur et se retourna. Un frisson glacé me parcourut. Je le connaissais. C'était Penn, si apprécié de Royal pour son savoir-faire avec ses poings. La dernière fois que je l'avais vu, c'était dans les cachots, et c'est lui qui m'avait cassé le nez. Je sentis les battements de mon cœur accélérer, et le sang se mit à tonner dans mes oreilles. L'obscurité envahit les bords de ma vision. Par un effort de volonté, je m'obligeais à respirer sans bruit. L'homme alla se placer au centre du campement et promena sur nous un regard dédaigneux.
« Tout le monde est là ? »
fit-il d'un ton cassant. Nous hochâmes tous la tête. Ses yeux firent à nouveau le tour de notre groupe, et je détournai les miens pour éviter de croiser son regard. Je devais me tenir à quatre pour empêcher mes mains de s'approcher de mon poignard ou de mon épée, tout en m'efforçant d'empêcher l'attention qui m'habitait de transparaître dans mon attitude.
« Rarement vu un tas de pouilleux pareil !»
Nous ne présentions manifestement plus d'intérêt pour lui.
« Maîtresse de caravane, nous chevauchons depuis ce matin. Dis à ton fils de s'occuper de nos chevaux. Il nous faut à manger et du bois pour le feu. Qu'on mette aussi de l'eau à chauffer pour que nous puissions nous laver. »
Son regard nous balaya encore une fois.
« Je ne veux pas de raffus. Ceux que nous cherchons ne sont pas là, et c'est tout ce que nous voulions savoir. Faites ce qu'on vous dit, et il n'y aura pas de problème. Vous pouvez retourner à vos occupations. »
À ces mots, il y eut quelques murmures d'assentiment, mais la plupart de mes compagnons gardèrent le silence. Avec un reniflement méprisant, Penn se dirigea vers ses cavaliers pour s'entretenir avec eux à mi-voix. Les ordres qu'il leur donna ne parurent pas les ravir, mais les deux gardes qui tenaient toujours la femme du rémouleur en respect se précipitèrent pour y obéir. Ils délogèrent les membres de la caravane du feu qu'avait allumé Madge, qui envoya deux de ses aides soigner les chevaux des gardes et un autre chercher de l'eau pour la mettre à chauffer. Elle-même passa d'un pas lourd devant notre carriole pour gagner son chariot où se trouvaient des réserves de vivres. Dans une atmosphère inquiète, le camp retrouva un semblant d'ordre. Astérie fit un deuxième feu, plus petit que le premier, et la troupe du marionnettiste, la ménestrelle, ainsi que les conducteurs d'attelage s'assirent autour, tandis que la propriétaire des chevaux et son mari allaient se coucher.
« Eh bien, on dirait que ça s'est calmé, » me dit Damon.
Mais je remarquais qu'il se tordait encore nerveusement les mains.
« Bon, je vais dormir. Partagez-vous l'éveil, Chris et toi. »
Je commençai à me diriger vers l'endroit où paissaient les moutons, puis je m'arrêtai pour observer le camp. Les gardes n'étaient plus que des silhouettes qui se découpaient sur le feu. Allongés par terre, ils bavardaient entre eux sauf un, debout, à l'écart, qui montait la garde. Il était tourné vers l'autre feu, et je suivis son regard. Tassin le lui rendait-elle, ou bien ses yeux s'étaient-ils posés par hasard sur le groupe de soldats? Quoi qu'il en fût, je croyais savoir à quoi elle pensait. Changeant de direction, je me rendis à l'arrière du chariot de Madge. À l'aide d'une casserole, elle mesurait des haricots et des pois qu'elle prenait dans des sacs. Je lui effleurai le bras et elle sursauta. « Pardon, vous avez besoin d'aide ?» Elle leva les sourcils.
« Pourquoi ça ?»
Je regardai le bout de mes bottes et choisis soigneusement mon mensonge. « Je n'ai pas aimé leur façon de regarder la femme du rémouleur, madame. »
« Je sais me débrouiller avec les brutes, berger. Sans ça, je ne serai pas maîtresse de caravane. »
Elle dosa du sel dans sa casserole, puis ajouta une poignée d'épices. Je hochai la tête sans répondre. C'était parfaitement évident, sans objection possible. Je n'en demeurai pas moins auprès d'elle, et au bout d'un moment, elle me tendit un seau qu'elle me demanda d'aller remplir d'eau fraîche. Je m'empressai d'obéir, et quand je le rapportais, je le gardais à la main jusqu'à ce qu'elle m'en débarrasse. Puis je restais à la regarder préparer la soupe, si bien qu'elle finit par m'ordonner sèchement de ne pas traîner dans ses jambes. Je m'écartai en m'excusant et renversai le seau. Je retournai donc chercher de l'eau. Après cela, j'allai prendre une couverture dans la carriole de Damon, m'y enroulai et m'allongeai sous le véhicule. Puis, faisant semblant de dormir, j'observai non les gardes, mais Astérie et Tassin. Je notai que la ménestrelle n'avait pas sorti sa harpe ce soir, comme si elle préférait éviter d'attirer l'attention sur elle, ce qui me rassura un peu sur son compte. Il lui aurait été facile de se rendre auprès des soldats avec son instrument, de capter leur confiance à l'aide de quelques chansons, et enfin, de leur proposer de me livrer à eux. Mais, bien au contraire, elle paraissait vouloir surveiller Tassin aussi étroitement que moi. Une fois celle-ci se leva et donna un prétexte quelconque pour s'éloigner. Je n'entendis pas ce qu'Astérie lui murmura, mais Tassin lui répondit par un regard furieux, et Maître Dell ordonna d'un ton irrité à son apprenti de revenir auprès du feu. Manifestement, Dell ne souhaitait en aucune façon avoir affaire aux gardes. Pourtant, même après que tout le monde se fut couché, je ne parvins pas à me détendre, et quand l'heure vint de relever Chris, je quittai ma place à contre-cœur, car rien ne disait que Tassin ne profiterait pas de la nuit pour me dénoncer. Je trouvai Chris dormant à poings fermés, et je dus le réveiller pour le renvoyer à la carriole. Je m'assis, ma couverture sur les épaules, et je songeai aux 6 soldats au fond de la cuvette, à présent profondément endormis près de leur feu. Un seul d'entre eux méritait ma haine. J'évoquai Penn, tel que je l'avais vu, souriant d'un air gourmand tandis qu'il enfilait ses gants de cuir pour me frapper. Boudeur, lorsque Royal l'avait réprimandé parce qu'il m'avait cassé le nez et que je risquais d'être moins présentable si les ducs demandaient à me voir. Je me rappelais le mépris avec lequel il avait accompli la besogne ordonnée par Royal, la facilité avec laquelle il avait contré la défense toute symbolique que je lui opposais tout en m'efforçant d'empêcher Guillot d'investir mon esprit. Il ne m'avait pas identifié. Un bref coup d'œil, et il m'avait chassé de ses pensées, sans même reconnaître le résultat de son ouvrage. Cela m'entraîna sur une nouvelle voie de réflexion. J'avais dû beaucoup changer. Et cela ne tenait pas seulement au balafre qu'il m'avait laissé, à ma barbe, à mes vêtements d'ouvrier, à la crasse du voyage, ni à ma maigreur. Fitz Chevalerie n'aurait pas baissé les yeux devant son regard, ne serait pas resté sans réagir pendant que les rémouleurs se faisaient maltraiter. Fitz Chevalerie n'aurait peut-être pas non plus empoisonné Sigarde pour en tuer un. Avais-je gagné en sagesse ou bien en méfiance? Les deux, qui sait? En tout cas, je n'en tirais aucune fierté. Le vif me donne la perception de toutes les créatures vivantes qui m'entourent, si bien qu'il est difficile de me prendre par surprise, et les gardes n'y firent pas exception. L'aube commençait à éclaircir le ciel obscur quand ils vinrent me chercher. Je demeurai assis et suivi d'abord par le vif, puis par Louis, leur progression discrète. Penn avait envoyé ses 5 soldats à la tâche. Accablé, je me demandais pourquoi mon poison n'avait pas fait effet. Avait-il perdu son efficacité avec le temps? Ou à la cuisson mélangée à la soupe? Aussi stupéfiant que cela paraisse, l'espace d'un instant, la pensée qui prit le pas sur tout autre fut qu'Imbre n'aurait jamais commis une telle erreur. Mais je n'avais pas le temps de me perdre en spéculation. J'examinais la plaine aux douces ondulations, où presque rien n'accrochait l'œil, à part quelques cailloux et broussailles. Pas la moindre rigole, ni la plus petite butte pour me dissimuler. J'aurais pu m'enfuir et perdre quelque temps mes poursuivants dans le noir, mais ils avaient tous les atouts en main. La soif finirait tôt ou tard par m'obliger à revenir. S'ils ne me pourchassaient pas à cheval le jour venu, il leur suffirait de m'attendre auprès du trou d'eau. Par ailleurs, me sauver reviendrait à avouer que j'étais bien Fitz Chevalerie. Tom le berger n'avait aucune raison de prendre la fuite. Je levai donc un regard surpris et inquiet vers eux quand ils parvinrent près de moi, sans toutefois, du moins l'espérais-je, trahir la peur qui me faisait tonner le cœur. Je me mis debout et, quand l'un d'eux me saisit par le bras, au lieu de me débattre, je posai sur lui un regard d'incompréhension. Une garde s'approcha de l'autre côté pour me retirer mon poignard et mon épée. « Viens avec nous !» me dit-elle d'un ton bourru. « Le capitaine veut te regarder de plus près. » Je les suivis sans protester, les épaules voûtées, et quand au feu de camp ils m'amenèrent devant Penn, je regardais chacun tour à tour d'un air effrayé, en prenant bien soin de ne pas m'arrêter particulièrement sur lui. J'ignorais si, de si près, je parviendrais à cacher mes sentiments. Il se dressa, donna un coup de pied dans les braises pour attiser le feu, et s'approcha pour m'examiner. J'aperçus brièvement le visage blême et les cheveux de Tassin qui m'observaient derrière le chariot des marionnettistes. Penn scruta mes traits un long moment, puis il fit la moue, adressa un coup d'œil excédé à ses soldats, puis, d'un petit mouvement de la tête, il leur fit signe que je n'étais pas celui qu'ils cherchaient. J'osai respirer.
« Comment tu t'appelles ?»
me demanda-t-il à brûle-pourpoint. Je le regardais par-dessus le feu.
« Tom, messire. Tom le berger. Je n'ai rien fait de mal. »«
Ah ouais ? Alors, tu es bien le seul dans ce bas monde. Tu as l'accent de serre, Tom. Enlève ton mouchoir. »«
C'est vrai, messire, je suis de serre, messire. Mais les temps sont durs là-bas. »
J'ôtai vivement mon mouchoir de ma tête et le tordis entre mes doigts crispés. Je n'avais pas suivi le conseil d'Astéry concernant mes cheveux. Les teindre n'aurait servi à rien contre un examen soigneux. Mais, en m'aidant de mon miroir, j'avais arraché une bonne partie de ma mèche blanche. Ce qui en restait apparaissait comme un saupoudrage poivre et sel au-dessus de mon front. Penn fit le tour du feu pour mieux l'inspecter. Je tressaillis quand il me saisit par les cheveux et me tira la tête en arrière pour me regarder dans les yeux. Il était aussi grand et musclé que je me le rappelais. Et brutalement, tous les atroces souvenirs que je gardais de lui remontèrent à ma mémoire. Même son odeur me revint. La nausée débilitante de la terreur m'envahit. Je n'osais pas la moindre résistance, et loin de soutenir son regard méchant, je lui jetais de furtifs coups d'œil, effrayé, ainsi qu'à ses acolytes, comme si j'implorais de l'aide.
Je remarquai que Madge s'était approchée et contemplait la scène, les bras croisés.
« Tu as une cicatrice sur la joue, mon gars, » dit Penn.
« Oui, messire, c'est vrai. Je l'ai attrapé quand j'étais petit. Je suis tombé d'un arbre et je me suis raflé sur une branche. »
« Et c'est ce jour-là que tu t'es cassé le nez ?»«
Non, messire, non, ça, c'était pendant une bagarre dans une taverne, il y a un an. »«
Enlève ta chemise !»
ordonna-t-il. Je dégrafai mon col, puis fis passer le vêtement par-dessus ma tête. Je pensais qu'il voulait regarder mes bras, et mon histoire de clou était prête. Mais il se pencha sur moi pour m'examiner à la jonction du cou et de l'épaule, là où un forgisé m'avait arraché un morceau de chair lors d'un combat, bien des années plus tôt. Mes entrailles se glacèrent. Il observa la cicatrice noueuse, puis rejeta soudain la tête en arrière, et partit d'un grand éclat de rire.
« Foutre ! Je ne croyais pas que c'était toi, bâtard. J'en étais même sûr. Mais c'est bien la marque que j'ai vue la première fois que je t'ai flanqué par terre. »
Il regarda les soldats qui nous entouraient, l'air à la fois surpris et ravi.
« C'est lui ! On le tient ! Le roi fait cavaler ses sorciers d'art aux quatre coins du royaume, et voilà qu'il nous tombe tout rôti dans le bec. »
Il se passa la langue sur les lèvres en me toisant d'un air de jubilation mauvaise, et je sentis en lui une faim étrange, dont lui-même avait d'ailleurs presque peur. Il me saisit soudain à la gorge et me souleva sur la pointe des pieds. Il approcha son visage du mien et siffla.
« Écoute-moi bien, Verde, c'était un copain. C'est pas les 100 pièces d'or si on te prend vivant qui m'empêche de te tuer tout de suite. C'est que je suis sûr que mon roi est capable d'inventer des moyens de te faire mourir beaucoup plus intéressants que ce que je pourrais improviser ici. Tu seras de nouveau à moi, bâtard, et au cirque cette fois, ou du moins ce que mon roi voudra bien laisser de toi. »
Et il me repoussa violemment. Déséquilibré, je traversai le feu à reculons, et deux hommes m'attrapèrent aussitôt de l'autre côté. Je leur jetai des regards éperdus.
« C'est une erreur !» m'écriai-je. « Une terrible erreur !»«
Passez-lui les fers !» ordonna Penn d'une voix rauque.
Tout à coup, Madge s'avança.
« Vous êtes certain que c'est lui ?»
demanda-t-elle à Penn. Il soutint son regard, un chef face à un autre chef.
« Oui, c'est le bâtard au vif. »
Une expression d'absolue révulsion passa sur les traits de Madge.
« Alors emmenez-le, et bon vent à lui !»
Elle tourna les talons et s'en fut. Mes gardes avaient suivi l'échange entre Madge et leur capitaine et ne faisaient guère attention à l'homme qui tremblait entre eux. Risquant le tout pour le tout, je m'arrachai à leurs poignes et bondis vers le feu. Écartai d'un coup d'épaule un Penn pris au dépourvu et détalai comme un lapin. Je traversai le camp ventre à terre, longeai le chariot du rémouleur et la plaine s'ouvrit devant moi. Dans la lumière grisâtre de l'aube, on eût dit une couverture vaguement froissée, ni abri, ni destination. Je m'y précipitai. Je m'attendais à une poursuite à pied ou à cheval, mais pas à un homme armé d'une fronde. Le premier caillou frappa mon omoplate gauche et m'insensibilisa le bras. Je continuai à courir, croyant avoir été touché par une flèche. Puis, la foudre tomba sur moi. Quand je repris connaissance, j'avais les poignets enchaînés. Mon épaule gauche m'élançait affreusement, mais pas autant que la bosse sur mon crâne. En me tortillant, je réussis à me redresser en position assise. Nul ne me prêta guère attention. Des fers à mes chevilles partait une chaîne qui passait à travers un anneau fixé à celle qui reliait mes poignets. Et une autre, beaucoup plus courte, joignait mes chevilles, même pas assez longue pour me permettre de faire un pas normal. Cela dans le cas où j'eusse été capable de me mettre debout. Je ne dis pas un mot, ne fis pas un geste. Enchaîné, je n'avais aucune chance contre 6 soldats armés, et je ne tenais pas à leur donner le moindre prétexte pour me brutaliser. Pourtant, il me fallut faire appel à toute ma volonté pour rester sans bouger et réfléchir à ma situation. Rien que le poids de la chaîne était décourageant, tout comme le fer glacé qui mordait ma chair dans l'air froid de la nuit. Penn remarqua que j'avais repris conscience et vint se planter devant moi. Je gardai les yeux fixés sur mes pieds.
« Dis quelque chose, maudit sois-tu »
s'exclama-t-il soudain. « Je ne suis pas celui que vous cherchez, messire.
dis-je d'un ton craintif. Je n'arriverai pas à l'en convaincre. Je le savais bien, mais je parviendrai peut-être à ébranler ses soldats. Il s'esclaffa, puis retourna s'asseoir auprès du feu, et enfin s'allongea sur le dos, appuyé sur les coudes.
« Si c'est vrai, c'est bien dommage pour toi. Mais ce n'est pas vrai, j'en suis certain. Regarde-moi, bâtard. Comment tu as fait pour ne pas mourir ?»
Je lui lançai un regard apeuré. « Je ne comprends pas, messire. » Ma réponse ne lui convint pas. Vif comme un tigre, il se redressa, bondit sur moi par-dessus le feu. Je voulus me lever moi aussi, mais je n'avais aucune chance de lui échapper. Il saisit ma chaîne, me mit debout et me gifla violemment.
« Regarde-moi »
répéta-t-il. Je tournai les yeux vers lui.
« Comment ça se fait que tu n'es pas mort, bâtard ?»«
Ce n'est pas moi. Vous vous trompez. » Cette fois, j'eus droit au revers de sa main. Humbre m'avait dit un jour que sous la torture, il est plus aisé de résister si l'on se concentre sur ce que l'on est prêt à confesser, plutôt que sur ce qu'on refuse d'avouer. Je savais stupide et inutile de prétendre n'être pas fitz-chevalerie devant peine, puisqu'il était convaincu du contraire, mais j'avais adopté cette ligne de conduite et je devais m'y tenir. La cinquième fois qu'il me frappa, un de ses hommes intervint.
« Sauf votre respect, chef !»
Penn lui lança un regard furieux.
« Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?»
L'homme se passa la langue sur les lèvres.
« Il faut que le prisonnier soit vivant, chef, si on veut toucher la récompense. »
Les yeux de Penn revinrent sur moi. L'effroi me saisit en y lisant un désir inextinguible, semblable à celui de vérité pour l'art. Cet homme aimait faire souffrir, il aimait tuer lentement, et il me haïssait, d'autant plus que cela lui était interdit.
« Je sais !»
répondit-il d'un ton brusque. Je vis venir son poing, mais je fus incapable de l'éviter. Quand je me réveillais, la matinée était déjà bien entamée. J'avais mal. Pendant quelque temps, je n'eus conscience de rien d'autre. J'avais mal, très mal, à une épaule, ainsi que tout le long du flanc du même côté. Il avait dû me bourrer de coups de pied. Je n'osais pas bouger un seul muscle de mon visage. « Pourquoi ?» me demandai-je. « La douleur est-elle toujours pire quand on a froid ?» Ma situation me laissait curieusement détaché. Je restais un moment à écouter les bruits ambiants sans désir d'ouvrir les yeux. La caravane s'apprêtait à repartir. J'entendis Maître Dell hurler après Tassin, qui criait qu'elle avait droit à son argent, que s'il l'aidait à l'obtenir, elle lui rembourserait le prix de son apprentissage et qu'il pourrait lui dire adieu. Il lui ordonna de grimper dans le chariot, mais j'entendis les pas crissants de Tassin sur la terre sèche se diriger vers moi. Cependant, c'est à peine qu'elle s'adressa d'un ton pleurnichard.
« Je ne m'étais pas trompé. Vous ne vouliez pas me croire, mais j'avais raison, c'est moi qui l'ai découvert. Sans moi, vous auriez continué votre route alors qu'il était sous votre nez. Cet argent me revient. Mais je veux bien me contenter de la moitié. Je vous laisse l'autre moitié, et c'est plus qu'équitable. »«
À ta place, je grimperai dans mon chariot, » répondit Penn d'un ton glacé. « Sinon, quand tout le monde sera parti, tu auras une longue promenade devant toi. »
Elle eut le bon sens de ne pas chercher à discuter, mais elle ne cessa de jurer tout bas en revenant au chariot des marionnettistes. J'entendis Dell lui dire qu'elle n'apportait que des ennuis et qu'il serait content de se débarrasser d'elle à Lac Bleu.
« Mets-le debout, Geoff !»
ordonna Penn. On me jeta de l'eau au visage et j'ouvris un œil. Je vis une garde saisir ma chaîne et tirer brutalement dessus, ce qui réveilla en moi toutes sortes de douleurs jusque-là muettes.
« Debout !»
fit-elle sèchement, et je parvins à hocher la tête. Une de mes dents branlait, et je n'y voyais que d'un œil. Je voulus lever les mains pour me palper la figure, mais une saccade de la chaîne m'en empêcha.
« Il voyage à pied ou à cheval ?»
demanda la femme à peine, tandis que je me redressais tant bien que mal.
« Rien ne me ferait plus plaisir que de le traîner derrière nous, mais ça nous ralentirait trop. Il ira à cheval. » Tu monteras en croupe avec Arnaud et tu lui passeras ton cheval. Ligote-le à la selle et tiens bien la guide de ta monture. Il joue les abrutis, mais il est ficelle et il est dangereux. Je ne sais pas s'ils sont vifs et capables de tout ce qu'on raconte, mais je n'ai pas envie de prendre des risques. Alors tu ne lâches pas ta guide. Où est Arnaud à propos ?
Dans les broussailles, chef. Il a mal aux tripes. Il a pas arrêté de se lever toute la nuit pour se les vider.
Va le chercher.
Manifestement, les soucis de l'homme n'intéressaient pas peine. Ma garde partit au pas de course, et je restais sur place, vacillant. Je portais mes mains à mon visage. J'avais vu arriver le premier coup de poing, mais, à l'évidence, d'autres avaient plu.
« Accroche-toi, » me dis-je farouchement. « Vis et guette les occasions. »
Quand je baissais les mains, je m'aperçus que Penn m'observait.
« De l'eau ?»
demandai-je d'une voix chuintante. J'avais posé la question sans grand espoir, mais il se tourna vers un de ses soldats et lui fit un petit signe. Quelques instants plus tard, l'homme m'apporta un seau d'eau et deux biscuits secs. Je bus, puis m'aspergeai le visage. Les biscuits étaient durs et ma bouche me faisait très mal, mais je m'efforçais de manger le plus possible. Je n'aurais sans doute rien d'autre de la journée. À cet instant, je remarquai que ma bourse avait disparu. Penn avait dû s'en emparer pendant que j'étais inconscient. Mon cœur se serra à la pensée que je ne reverrais plus la boucle d'oreille de Burick. Tout en mâchant avec précaution mes biscuits, je me demandais ce que Penn avait pensé de ma collection de poudre. Il nous donna le signal du départ bien avant que la caravane se fût ébranlée. J'aperçus Astéry, mais ne parvins pas à déchiffrer son expression. Quant à Chris et à mon maître, ils évitèrent soigneusement de me regarder, de crainte d'être infectés par ma souillure. On eût dit qu'ils ne m'avaient jamais connu. On m'avait placé sur une solide jument, et mes poignets étroitement attachés par des sangles aux pommeaux de la selle rendaient impossible de voyager confortablement. Quand bien même, n'eussais-je pas eu l'impression d'avoir tous les os rompus. J'avais toujours mes fers. On m'avait seulement enlevé la courte chaîne qui reliait mes chevilles, et celle qui les joignait à mes poignets reposait sur la selle. Il n'y avait pas moyen d'empêcher le frottement des maillons de m'irriter la peau. J'ignorais ce qu'était devenu ma chemise, mais elle me manquait cruellement. Le contact du cheval et les chaos du voyage ne m'apporteraient qu'une chaleur inconfortable. Une fois que le dénommé Arnaud, pâle comme un linge, eut pris place derrière la garde, nous nous mîmes en route vers Gué de Négoce. Je songeais lugubrement que mon poison n'avait eu pour effet que de donner la diarrhée à un seul soldat. Bel assassin, en vérité. Rejoins-moi. J'aimerais en être capable, me dis-je avec lassitude, alors que je me trouvais entraîné dans la mauvaise direction. J'aimerais en être capable. À chaque pas de la jument, mes souffrances s'entrechoquaient. J'aurais aussi aimé savoir si mon épaule était fracturée ou luxée. J'aurais aimé savoir d'où me venait l'étrange détachement que j'éprouvais envers tout. Et enfin, j'aurais aimé savoir si je devais espérer arriver à Gué de Négoce vivant, ou s'il valait mieux pousser mes gardiens à me tuer avant. Je ne voyais aucun moyen de les persuader de me libérer, encore moins de m'enfuir dans cette région plate comme la main. Je courbais ma tête, que martelait la migraine, et restais les yeux fixés sur mes poignets. Le vent et le froid me faisaient frissonner. À tâtons, je tendis mon esprit vers la jument, mais ne réussis qu'à la rendre consciente de mes douleurs. Elle n'avait nulle envie d'arracher sa guide à la poigne de la garde, ni de m'emporter au galop. D'ailleurs, elle n'appréciait pas trop mon odeur de mouton. À la deuxième halte que nous fîmes pour permettre à Arnaud de se vider les entrailles, Penn fit faire demi-tour à sa monture et vint s'arrêter près de moi.
« Bâtard !»
Je levai lentement les yeux vers lui.
« Comment tu as fait ? J'ai vu ton corps et tu étais mort. Je sais reconnaître un cadavre. Alors, comment ça se fait que tu sois vivant ?»
Même si je l'avais voulu, je n'aurais pas pu articuler la moindre réponse. Au bout d'un moment, il eut un reniflement de mépris.
« En tout cas, ne compte pas que ça se reproduise. Cette fois, c'est moi qui m'occuperai personnellement de te découper en morceaux. J'ai un chien chez moi qui bouffe n'importe quoi. À mon avis, il ne demanderait qu'à me débarrasser de ton cœur et de ton foie. Qu'est-ce que t'en dis, bâtard ?»
J'étais navré pour le chien, mais je me tus. Quand Arnaud reparut, la démarche titubante, Geoff l'aida à remonter en selle, et Penn regagna la tête de la colonne. Nous repartîmes.
La moitié de la matinée ne s'était pas écoulée, qu'Arnaud demandait à sa camarade de s'arrêter une troisième fois. Il se laissa glisser à bas du cheval, fit quelques pas hésitants, et se mit à vomir, plié en deux, les mains crispées sur son ventre douloureux. Soudain, il s'écroula en avant, le visage dans la terre. Un des gardes éclata de rire, mais Arnaud roula sur le dos en gémissant, et Penn ordonna à Geoff d'aller voir ce qu'il avait. La femme mit pied à terre et apporta de l'eau à l'homme, qui fut incapable de saisir la gourde. Quand Geoff lui plaça le goulot aux lèvres, l'eau coula sur son menton. Il détourna lentement la tête et ferma les yeux. Au bout d'un moment, Geoff nous regarda, l'air abasourdi.
« Il est mort, chef. »
Sa voix était un peu trop aiguë. Une fosse peu profonde fut creusée et de gros cailloux entassés sur le cadavre. Avant la fin de l'inhumation, deux autres gardes avaient été à leur tour pris de vomissements. De l'avis général, la cause en était sûrement une eau souillée, bien que je surprisse Penn en train de m'observer, les yeux étrécis. On n'avait pas pris la peine de me faire descendre de cheval. Aussi, me courbai-je en avant sur ma selle, comme si je souffrais moi aussi, les yeux baissés, jouant le malade sans difficulté aucune. Penn fit remonter ses soldats à cheval et nous reprîmes notre route. À midi, il était évident que tout s'était atteint. Un des plus jeunes gardes oscillait dans sa selle au rythme de sa monture. Penn ordonna un bref repos qui s'avéra plus long que prévu. À peine un homme avait-il achevé de vomir, qu'un autre était pris de haut le cœur, et Penn finit par leur intimer de remonter à cheval, malgré leurs geignements et leurs plaintes. Nous poursuivîmes notre chemin, mais à moindre allure. Je sentais l'aigre odeur de sueur et de vomi que dégageait la femme qui conduisait ma monture. Alors que nous gravissions une pente douce, Geoff tomba de sa selle et s'écroula dans la poussière. Je talonnais vivement ma jument, mais elle se contenta de faire quelques pas de côté, les oreilles en arrière, trop bien dressée pour prendre le galop avec les rênes pendant du mort. Penn fit faire halte à sa troupe et chacun mit aussitôt pied à terre. Certains pour rendre gorge, d'autres simplement pour tomber à genoux, pliés de douleur, près de leurs chevaux.
« Montez le camp !»
ordonna Penn, bien qu'il fût encore tôt. Après quoi, il s'éloigna un peu et fit quelque temps des efforts vains pour vomir. Geoff ne se releva pas. C'est Penn qui revint auprès de moi et détacha d'un coup de couteau mes poignets de la selle. Il tira sur ma chaîne et je faillis tomber sur lui. Je fis alors quelques pas en titubant, puis me laissai tomber sur les genoux, les mains crispées sur l'estomac. Il vint s'accroupir près de moi et me saisit fermement par la nuque, mais je sentais bien que sa vigueur n'était plus ce qu'elle avait été.
« Qu'est-ce que tu en dis, bâtard ? »
demanda-t-il dans un grondement rauque. Il était tout près de moi et son haleine et sa sueur empestaient la maladie.
« Ça vient de l'eau ou d'autre chose ?»
Je fis semblant d'être pris de haut le cœur et me tournai vers lui comme pour vomir. Il s'écarta prudemment de moi. Deux de ses gardes avaient réussi à desceller leur monture. Les autres étaient étalés par terre dans un état pitoyable. Penn passa de l'un à l'autre en les abreuvant d'injures. Sans résultat, mais avec conviction. L'un des hommes les plus vigoureux parvint finalement à réunir ce qu'il fallait pour faire du feu, tandis qu'un autre allait en crabe d'un cheval à l'autre, ne faisant guère plus que déboucler les selles et les laisser tomber au sol. Penn lui-même vint rattacher la chaîne qui me liait les chevilles. De nouveaux gardes moururent dans la soirée. Penn traîna leurs cadavres à l'écart, mais n'eut pas la force d'en faire davantage. Le feu ne tarda pas à s'éteindre par manque de combustible. La nuit de la plaine me parut plus noire que jamais, et le froid sec semblait ne faire qu'un avec les ténèbres. J'entendais les hommes gémir, et l'un d'eux répétait sans cesse « Mon ventre, mon ventre !» Les chevaux s'agitaient, mécontents, parce qu'ils n'avaient pas eu à boire. Je rêvais d'eau et de chaleur. Des douleurs m'assaillaient un peu partout. Celles de mes poignets, mis à vif par les fers, étaient moins pénibles que celles de mon épaule. Mais elles étaient ininterrompues et ne se laissaient pas oublier. Quant à mon omoplate, elle était au moins fracturée. À l'aube, Penn s'approcha de moi en chancelant.
Il avait les yeux enfoncés dans leur orbite et le visage hâve. Il se laissa tomber à genoux et me saisit par les cheveux. Gémis un gémissement.
« T'es en train de crever, bâtard ?»
me demanda-t-il d'une voix enrouée. Je gémis à nouveau et fis un faible effort pour me libérer. Cela parut le convaincre.
« Tant mieux, tant mieux. Il y en a qui disaient que tu nous avais lancé un sort avec ton vif, bâtard. Mais de l'eau souillée, ça tue n'importe qui. Qu'on ait le vif ou qu'on soit honorable. Je vais quand même m'assurer que ce soit pour de bon cette fois. »
C'était mon propre poignard qu'il dégaina. Comme il me tirait par les cheveux pour exposer ma gorge, je relevais violemment les mains et lui envoyais mes deux poings avec les fers et la chaîne en pleine figure. Simultanément, je le repoussais avec toute la force de vif que j'avais pu rassembler. Il s'écroula sur le dos, se retourna, rampa de quelques pas et s'écroula sur le flanc dans le sable. J'entendis sa respiration lourde qui cessa au bout d'un moment. Je fermai les yeux pour mieux écouter le silence. L'absence soudaine de ma perception de son existence était comme un rayon de soleil sur mon visage. Quelque temps plus tard, alors que le jour était levé, je fis un effort pour ouvrir mon œil valide. J'eus plus de mal à m'approcher de peine sur le ventre. Toutes mes douleurs s'étaient combinées en une seule, qui hurlait à chacun de mes mouvements. Je fouillai soigneusement le cadavre et mis la main sur la boucle d'oreille de Burik dans sa besace. Aussi étonnant que cela paraisse, je m'interrompis pour la fixer à mon lobe afin de ne plus la perdre. Mes poisons étaient là aussi. En revanche, je ne trouvais pas les clés de mes fers. Je commençai à faire le tri entre mes affaires et celles de peine, mais le soleil me plantait des pics dans la nuque, et je finis par accrocher la besace à ma ceinture, tout simplement. Ce qui était à lui était désormais à moi. Une fois qu'on a empoisonné quelqu'un, me dis-je, autant le détrousser. L'honneur ne jouait apparemment plus un très grand rôle dans mon existence. La clé devait se trouver sur celui qui m'avait passé les fers. Je m'approchai du corps suivant en rampant, mais sa besace ne contenait qu'un peu d'herbe à fumer. Je m'assis, et j'entendis alors des pas hésitants qui se dirigeaient vers moi. Je levai les yeux, et le soleil me fit loucher. Le jeune soldat s'approchait à pas lents et titubants. Dans une main, il tenait une outre. Dans l'autre, la clé, brandie, afin que je la voie bien. Il fit halte à une dizaine de pas.
« Ta vie contre la mienne » croassa-t-il.
Il vacillait. Comme je ne réagissais pas, il fit une nouvelle tentative.
« De l'eau et la clé de tes chaînes, le cheval que tu veux. Je ne te retiendrai pas, mais lève ta malédiction de moi. »
Qu'il était jeune et pitoyable.
« S'il te plaît !»
fit-il brusquement, implorant. Sans l'avoir voulu, je secouai lentement la tête. « C'était du poison, » dis-je.
« Je ne peux rien pour toi. »
Il me dévisagea d'un air à la fois incrédule et furieux.
« Alors, je dois mourir, aujourd'hui ?»
Sa voix n'était qu'un murmure rauque. Ses yeux se vrillèrent aux miens et je hochai la tête.
« Maudit sois-tu »
s'écria-t-il, jetant ses dernières forces dans l'exclamation.
« Alors tu mourras aussi, tu mourras ici même !»
Et il lança la clé le plus loin qu'il put. Puis se dirigea vers les chevaux, en une course faible et chancelante, en criant et en agitant les bras. Bien dressés, les bêtes avaient passé la nuit sans attache, et avaient même attendu toute la matinée qu'on leur donne à manger et à boire. Mais l'odeur de la maladie et de la mort, et la conduite incompréhensible du jeune homme firent déborder la coupe. Il poussa soudain un grand cri, et s'écroula le visage dans la poussière parmi elles. Alors, un grand hongre gris, releva la tête et s'ébroua. Je lui transmis des pensées apaisantes, mais il ne les écouta pas. Il se mit à caracoler, puis prit sa décision et se lança au petit galop. Les autres le suivirent. Le bruit de leurs sabots ne m'évoqua pas le tonnerre sur la plaine, mais plutôt les gouttes de pluie faiblissantes d'un orage qui s'éloigne en emportant avec lui tout espoir de vie. Le jeune homme avait cessé de bouger, mais il mit du temps à mourir. Et je dus écouter ses pleurs étouffés pendant que je cherchais la clé. Je n'avais qu'une envie, aller récupérer les outres d'eau,
mais je craignais qu'en me détournant de la zone où il l'avait jetée, je ne fusse plus capable de déterminer parmi ces étendues de sable toutes semblables, laquelle recelait mon salut. Je la passai donc au peigne fin à quatre pattes, les poignets et les chevilles irrités et coupés par les fers, tandis que je scrutais le sol de mon œil unique, même après que les pleurs du jeune soldat furent devenus inaudibles, même après qu'il fut mort, je continuais à les entendre dans ma tête. Aujourd'hui même je les entends parfois. Encore une jeune existence absurdement abrégée, pour rien, résultat de la vindicte de Royal contre moi, à moins que ce ne fût à cause de ma vindicte contre Royal. Je finis par découvrir la clé à l'instant où je pensais que le coucher du soleil allait me la dissimuler à jamais. De facture grossière, elle tournait difficilement dans les serrures, mais fonctionnait néanmoins. Je libérai des fers mes chairs enflées. Celui de ma cheville gauche était si serré que mon pied était glacé et presque insensible. Mais au bout de quelques minutes, la vie reflua douloureusement. Je n'y prêtais guère d'attention, trop occupé à chercher les outres. La plupart des gardes avaient vidé les leurs, tout comme mon poison avait vidé leurs entrailles de leur fluide, et celle que le jeune homme m'avait montrée ne contenait que quelques gorgées d'eau. Je l'ai bu très lentement, en faisant tourner le liquide longtemps dans ma bouche avant de l'avaler. Dans les fontes de peine, je découvris un flacon d'eau-de-vie dont je m'autorisai une petite gorgée avant de le reboucher et de le mettre de côté. Le trou d'eau n'était guère à plus d'une journée de marche. J'y arriverai. Il le fallait. Je dépouillai les cadavres de tout ce qui pouvait me servir. Je fouillai les fontes et les paquetages des selles, et quand j'en eus terminé, je portai une chemise bleue qui me tombait bien aux épaules, encore qu'elle me descendît presque jusqu'aux genoux. Je m'étais aussi approprié de la viande séchée, de l'avoine, des lentilles, des pois secs, ma vieille épée que j'avais finalement préférée à une autre, le poignard de peine, un miroir, une petite casserole, une chope et une cuillère. Je déroulai une couverture solide et y déposai mes trouvailles, auxquelles j'ajoutai une tenue de rechange, trop grande, mais qui valait mieux que rien. Le manteau de peine serait trop long pour moi, mais il était de la meilleure qualité, et je m'en emparais donc. Un des soldats transportait de la toile pour bandage et quelques onguents que je pris également, ainsi qu'une outre vide et le flacon d'eau-de-vie. J'aurais pu délester les cadavres de l'argent et des bijoux qu'ils portaient, j'aurais pu me charger de 10 autres articles dans l'éventualité où ils pourraient me servir, mais, sans même y réfléchir consciemment, je ne cherchais qu'à remplacer ce que j'avais possédé, avant de m'éloigner le plus vite possible de la puanteur des corps, déjà en train de gonfler. Je me fis un paquetage aussi serré et peu encombrant que possible, et le fermai à l'aide de sangles tirées des harnais. Pourtant, quand je le hissai sur mon épaule valide, il me parut encore beaucoup trop lourd.
« Mon frère !»
Le contact était incertain, comme s'il n'était pas affaibli par la seule distance. Par le manque d'habitude, on eût dit un homme s'exprimant dans une langue qu'il n'a pas employée depuis plusieurs années.
« Je suis vivant, œil de nuit. Reste avec ta meute. Et vis-toi aussi. As-tu besoin de moi ?»
Je perçus son conflit intérieur alors qu'il me posait la question.
« J'ai toujours besoin de toi.
J'ai besoin de te savoir vivant et libre. » Je sentis son acquiescement, mais garde davantage. Au bout d'un moment, je me demandais si je n'avais pas imaginé son contact. Pourtant, c'est d'un pas curieusement ragaillardi que je quittais les cadavres et m'enfonçais dans la nuit qui s'épaississait. Vous venez d'écouter Le Poison de la Vengeance, L'Assassin Royal, tome 4, traduit par Arnaud Mounier-Lompré, lu par Sylvain Agaès.